Bonsoir, rien ne va plus pour la grande récré en France et Toys R Us aux États-Unis. Alors, Noël est loin, c'est peut-être plus forcément la saison de vous en parler, mais toujours est-il que l'un est en redressement judiciaire, l'autre en faillite, doit fermer ses magasins. Oui, fini de s'amuser donc dans ce petit monde des jouets qui se fait la guerre, donc entre enseignes spécialisées, grandes distributions et Internet, hein, match sanglant, mais le jeu est loin d'être fini, oui, puisque chacun, évidemment, a plus d'un atout dans sa manche, hein. Digital, expérience client dans les points de vente. Alors, Amazon a-t-il vraiment gagné la partie? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Des ombres sur ce monde magique du jouet. Bon, on va essayer de les dissiper, ces nuages. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec nos décodeurs, des experts, des acteurs, comme tous les soirs. Tenez, il y a Alain Bourgeois-Muller. C'est le PDG de Jouet Club. Hein. 300 magasins, dont 10 ouvertures l'an dernier, en 2017, avec un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros. Rodolphe Bonas, bien sûr, inutile de vous le présenter, est à la tête de CACOM, grand spécialiste de la distribution. Vous le retrouvez chaque week-end dans Innover pour le commerce avec Karine Verniolle. Avec nous également Bruno Bérard, le directeur général de Playmobil en France. Oui, justement, qui fournit ces magasins de jouets. Anne-France Marraine, la commissaire générale du salon Kid Expo, qui fait foi en la matière. Et puis Serge Azoulay, qui est le PDG de Lancer, une vieille entreprise, hein, qui a presque 50 ans, donc des jouets, des jeux de société, qui veut gagner des millions, Motus, Koh-Lanta, Question pour un champion, Burger Quiz, voilà, donc tout ça décliné en jeu de plateau. Alors, Rodolphe, il faut quand même bien nous expliquer un tout petit peu ce qui se passe quand même. C'est vrai qu'on a appris donc depuis 10 jours la grande récré en redressement judiciaire, Toys R Us qui ferme boutique aux États-Unis, faillite également au UK de Maplin qui est spécialisé dans l'électronique. Alors je sais pas si on peut mélanger comme ça toutes ces enseignes en même temps, mais comment on explique les difficultés conjointes de ces grandes enseignes, ces grands spécialistes?
Alors, c'est vrai que dans le cas de la Grande Récré ou de Toys R Us, en fait, on va focaliser essentiellement sur les raisons du business. On va en parler ce soir, le digital, les magasins, etc. Mais en fait, quand on y regarde à plus près, Fabrice, la problématique est essentiellement et principalement un problème financier. Ouais. Hein, ce marché du jouet, comme vous le savez, 50% du chiffre d'affaires est réalisé sur les mois de novembre et décembre. Et donc, c'est quand
même... J'ai l'impression que même c'est une saison qui se raccourcit.
C'est de plus en plus court, hein. C'est-à-dire que les clients viennent acheter leurs jouets de plus en plus tardivement, hein. Et donc, résultat des courses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'exploitation, c'est extrêmement consommateur en cash. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter, se positionner sur des ventes, commander aux industriels à l'avance, et mécaniquement, tout repose sur ces deux derniers mois. Et donc, que ce soit Toys R Us ou la Grande Récré, ils ont une problématique de cash, et c'est essentiellement les banquiers, les investisseurs, les financiers qui ont décidé de stopper la fin de la récré. Voilà la raison principale de la situation que peuvent connaître ces deux entreprises. Après, il y a des raisons de business, et on en parlera sans doute tout à l'heure, mais essentiellement, c'est ça, Fabrice, une problématique financière.
Ouais, tiens, vous, Jouet Club, Alain Bourgeois-Muller, oui. Regarde sur ces difficultés, évidemment, au-delà de ces concurrents que représentent pour vous la Grande Récré et Toys R Us, mais en quoi c'est symptomatique ce qui se passe avec ces deux enseignes?
Si vous voulez, pour ce qui me concerne, mon analyse est un peu différente de celle de mon voisin. Je veux dire par là que pour ce qui nous concerne, on va bien. Et je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités parce que c'est important qu'on puisse parler du jouet d'une manière plus positive que l'actualité ne le fait actuellement. Pour ce qui nous concerne, on est depuis toujours en positif tous les ans. On n'a fait que, c'est vrai, plus 1,05 en 2017, ce qui n'est pas notre meilleure année, mais néanmoins nous sommes en positif. Après, je pense aussi à des problématiques de gestion. Pour moi, un magasin de 3 000-4 000 mètres carrés de jouets en France, avec les frais que ça induit en termes de loyer, de personnel et autres, c'est pour moi du très lourd. On est en France, on est dans l'Hexagone, qu'on en discutait un peu tout à l'heure, qu'on ait des magasins comme celui de la Défense, peut-être, oui, mais d'autres magasins en province, ça me paraît un peu démesuré.
Ce que vous voulez dire, Rodolphe Bonas, ou dites-le moi aussi à Anne-France Marraine, ça ne se justifie plus, finalement, d'avoir des immenses magasins de jouets, des assortiments énormes, trop de références, trop de modèles, finalement, avec assez peu de sélection, quelque part. Anne-France Marraine.
Nous, ce qu'on constate sur notre événement à Kid Expo, donc, qui est un événement annuel et qui est maintenant une édition en province à Lyon, et pour lequel on accueille des enfants qui sont là pour vivre une expérience en famille, ouais. C'est que c'est moins la démesure que, effectivement, l'expérience. Si vous avez 4000 m² avec un nombre incroyable de références, au fait, vous y perdez, vous n'avez pas forcément le bon conseil, vous n'avez pas cette expérience de jeu, ou en tout cas ce conseil des vendeurs, et donc vous n'êtes que, au fait, une succession de produits.
Oui, c'est Rodolphe Bonas, la question elle se pose aussi, puisque vous venez souvent nous parler de la grande distribution, de ces immenses grandes surfaces d'autrefois, quelque part, qui en 2018... elles ne sont plus adaptées aux besoins et aux envies des consommateurs. C'est pareil pour les Toys R Us, Grande Récré ?
Alors, ils sont concernés par, en effet, la disparition, on va dire, qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un peu les supermarchés ou les hypermarchés du jouet. C'est une réalité. Rappelons deux éléments que je vais vous donner. Le premier, c'est, en effet, qu'il y a aussi un point sur la marge. Il faut savoir que les marges dans le jouet sont des marges assez faibles. Donc, la question qu'évoquait monsieur, l'exploitation, c'est un facteur clé de succès. C'est un business au millimètre. Et puis, enfin, ce qu'il faut quand même évoquer, c'est que il y a ce que j'appelle dans le marché du jouet la double peine du digital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, vous avez un concurrent frontal qui sont en effet les e-commerçants, les pure players, mais vous avez un concurrent à l'intérieur de ce marché qui sont bien sûr tous les jeux vidéo, les jeux digitaux. Bien sûr. Et donc là, Fabrice, si vous voulez, voyez bien que c'est un marché qui a besoin en permanence d'innovation, de se réinventer pour essayer d'arriver à contrecarrer ce problématique du digital, du jouet digitalisé.
Votre regard, vous, fabricant de jouets, Bruno Bérard, Playmobil en France.
Je pense que dans un premier temps, il faut dissocier les difficultés que peuvent avoir certains acteurs côté distribution, voire de temps en temps côté industriel, du fonctionnement global du marché. On est sur un marché qui est sain. Quand vous prenez sur les 10 dernières années, la croissance moyenne du marché, c'est 1,6% par an. On a déjà connu dans le passé des années, en 2008, où le marché a fait moins 0,8%, il a fait plus 5% l'année suivante. En 2012, le marché a aussi reculé, on a récupéré les chiffres de l'année précédente en 2 ans.
Qu'on se rende compte simplement, en France, rien qu'en France, le marché du jouet, ce sont 3 milliards 400 millions d'euros. C'est le deuxième marché en Europe, selon le cabinet NPD.
Derrière l'Angleterre, absolument. Donc on est sur un marché d'offres, on n'est pas sur un marché de produits de grande consommation. C'est-à-dire que nous sommes habitués dans le jouet à avoir des variations relativement importantes d'une année sur l'autre parce que notre fonctionnement, notre performance va dépendre de la qualité de notre offre. Alors on peut avoir une offre exceptionnelle une année, une offre un peu moins forte l'année suivante, mais globalement quand on prend sur une période assez longue, on est un marché en développement.
Je rajoute que si vous regardez ce qui se passe ces dernières années, c'est quand même une industrie qui est extrêmement dynamique en termes d'innovation, de nouveaux jeux, et puis également de jeux qui suivent un peu, vous parliez de digitalisation.
Quand vous dites innovation, nouveaux jeux, ça veut dire quoi ? Ça se compte comment ? Combien de créations chaque année de jeux ? Ça, on arrive à le quantifier ou pas ?
Alors ça, je ne sais pas.
Allez-y, Bruno Bérard.
50% des assortiments qui sont renouvelés chaque année.
Chaque année. 50% chez Playmobil, par exemple.
Playmobil, et d'une façon générale.
D'une façon générale. Allez-y, Anne-France.
Et avec des jeux qui suivent les actualités et la modernité, parce que vous avez plein de jeux maintenant qui sont un peu à la fois des jeux traditionnels, mais qui se modernisent et qui font venir du code, du digital, des tablettes, etc., pour les remettre au bout du jour.
Serge Azoulay, à la tête de Lancet.
Écoutez, je veux également rebondir sur ce que Bruno disait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de crise de consommation dans le jouet. D'accord, le marché est stable. On a des problèmes avec des distributeurs, c'est malheureux. Ils ont chacun leurs problèmes. On est dans un métier où, comme Bruno également le disait, on doit se renouveler en permanence. Et c'est la même chose pour les distributeurs. Les choses bougent. Il faut s'adapter. Il faut avoir les moyens de s'adapter. Et quand on n'a pas forcément les moyens de s'adapter ou la vision qu'il faut au moment qu'il faut, ça devient plus compliqué. On a eu un exemple en Angleterre, en 2009, la chaîne Woolworths qui a disparu, elle pesait 11% de part de marché. D'accord. La première année, donc, elle a disparu en janvier 2009. La première année, 5% ont été redistribués auprès des autres. La deuxième année, les autres 5% ont été récupérés. On est sur un marché stable.
Et là, en l'occurrence, par exemple, puisqu'on parle de Toys R Us, donc, qui continue son activité apparemment en France, hein, qui va fermer boutique aux États-Unis. Bon, la Grande Récré, pour l'instant, n'est qu'en redressement judiciaire, évidemment, dans l'attente d'un plan et d'un repreneur. Quelles conséquences, d'ores et déjà, ces difficultés pour vous qui fabriquez Lancet ou Playmobil ?
C'est toujours délicat. C'est délicat parce qu'on est, on a chacun une échelle différente. Nous, on est une entreprise familiale avec les moyens d'une entreprise familiale. Quand vous avez une échéance qui ne peut pas être honorée ou qui est reportée ou sur laquelle vous n'avez pas de visibilité, il faut pouvoir gérer. Derrière, vous avez, on est au début de l'année maintenant. C'est une période à laquelle on commence à commander nos marchandises. Il faut pouvoir bien viser. Voilà, c'est pas forcément le bon moment pour ces mauvaises nouvelles, mais on pense quand même que, quoi qu'il arrive, le marché, même s'il perd un petit peu ses actions ou ses partenaires cette année, ou s'ils sont en difficulté, on récupérera quelque chose.
Bruno Bérard.
Conséquence à court terme, il y a une cessation de paiement de la part d'un client, donc ce qui veut dire qu'on a des créances qui ne sont pas payées.
Pas honoré,
si
ouais.
On a les reins financiers suffisamment solides, ça ne pose pas de problème à court terme. Je rejoins ce que disait Serge. On est une industrie dans laquelle nous devons produire très en amont de ce qui va être vendu à Noël. Donc nous sommes aujourd'hui en train de prendre des décisions de ce que les consommateurs vont trouver sur les rayons au mois de décembre. Ouais. Donc il faut jouer. Il faut prendre la décision de savoir on y va, on n'y va pas. On tient compte d'un éventuel problème qui durerait avec la Grande Récré ou avec Toys R Us. C'est à nous de prendre nos risques. Mais c'est une habitude que nous avons dans ce métier. Et encore une fois, on ne reproduit pas en année 2 ce que nous avons vécu en année 1. Et donc, nous sommes habitués à prendre ce type de risque.
Donc, en fait, alors je disais, on est loin de Noël. Non, non, en plein dedans, puisque Noël 2018, c'est maintenant que ça se prépare. Rodolphe Bonas, c'est à Com.
Juste pour donner un élément, pour éclairer, en fait, l'annonce de la cessation de paiement de Toys R Us aux États-Unis a eu un impact sur le cours de l'action de Mattel, de moins 2%. Donc, c'est pour vous expliquer.
Parce que Mattel, c'est 11% de ses ventes qui sont chez Toys R Us.
Exactement. Donc, c'est évident qu'il y a quand même des effets de corrélation qui peuvent avoir lieu.
Quand on est un fabricant de jouets, Lancet ou Playmobil, c'est quoi le meilleur débouché? C'est chez un généraliste, bon, la grande distribution, par exemple, avec un petit rayon de jouets et peu de choix, ou sur Internet, avec un vaste choix, la prime aux gros fabricants? Qu'est-ce qu'on aime?
Le meilleur débouché, c'est d'être équilibré.
Oui, bon. Voilà. Réponse de Normand, oui.
En tant qu'industriel, ce n'est pas à moi de choisir où le consommateur va aller acheter son Playmobil. Donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que le consommateur trouve du Playmobil partout où il espère pouvoir en trouver.
Et parce que vous nous disiez tout à l'heure, Rodolphe Bonas, les marges sont assez faibles. Et c'est vrai que on a l'impression que ce monde du jouet, quelque part, c'est un concentré de cette concurrence complètement dingue, hein, qui se noue entre spécialistes, généralistes, commerce en ligne, les grandes surfaces spécialisées, les grandes surfaces alimentaires, Amazon, Le Bon Coin, eBay aussi, hein, voilà,
oui.
Diversité du tissu de distribution. Et c'est vrai qu'on voit les grandes surfaces spécialisées qui se heurtent à une concurrence féroce. C'est vrai que les Carrefour, les Leclerc, quelque part, qui bradent les prix pour attirer, qui se le permettent, parce que leur part de marché, finalement, la part de marché jouet, elle est assez faible, hein, non?
Alors, oui et non. Hein.
Non
pour vous donner le théâtre français, 40% en gros des jouets sont vendus dans les magasins spécialisés, comme les magasins de
Jouets Club,
monsieur,
ouais.
Comme Jouets Club. 33% dans les hypermarchés, les réseaux généralistes,
ouais.
Et 25% sur le digital.
Ouais.
Ce qui est intéressant.
C'est la même part aux États-Unis à peu près.
Exactement.
Hein, le cas, hein.
voilà, exactement.
Évidemment, une part qui s'accroît.
Exactement. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le digital grimpe de l'ordre de 15 à 20% quand le traditionnel de l'ordre de 1 ou 2%. Simplement, pour vous donner un exemple, ce qui est intéressant dans l'histoire de Toys R Us, c'est que vous savez que Toys R Us, dans le début des années 2000, a annoncé un grand partenariat avec Amazon aux États-Unis.
Mmh.
C'est-à-dire en expliquant, on va monter une grande plateforme et on va s'allier avec en offrant finalement le meilleur du numéro 1 mondial du jouet en termes de sourcing et de l'autre côté le meilleur du digital. Alors on a bien vu que cette alliance finalement avait permis sans doute à Amazon d'arriver à sourcer toute l'intelligence du métier sans finalement lâcher l'aspect business et client. Et aujourd'hui, il y a certains analystes qui ont tendance à dire que finalement, eh bien peut-être que Toys R Us s'est un peu marié avec le diable. Alors, donc il faut regarder cette affaire de très très près, Fabrice, parce que en effet, l'existence, la cohabitation entre les deux est peut-être pas forcément créatrice de valeur.
On va y revenir juste, Alain Bourgeois-Muller à la tête de Jouet Club. Amazon vous a pris des parts de marché ? Vous l'avez calculé,
non,
ça ?
Objectivement, on ne le pense pas. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a quand même le consommateur et on a un métier de spécialiste. C'est vraiment un métier spécifique puisque on doit apporter du conseil, on doit apporter beaucoup d'éléments qui font venir et qui donnent envie aux gens de venir dans des magasins. Moi, je considère plus qu'Amazon est une vitrine par rapport au métier du jouet et qu'on a souvent des gens, d'ailleurs, on a fait aussi par ce... La concurrence, ça nous remue et ça nous secoue, évidemment. Donc, on a depuis quelques années, on a mis en place des drives. Donc, les gens peuvent consommer, ils viennent chercher en magasin et ils sont contents de pouvoir chercher en magasin, d'une part parce qu'ils ont un accueil, ils ont un service. S'il y a un produit qui ne convient pas, ils peuvent l'échanger plus facilement. Ils n'ont pas de frais de port, etc. Bien que ça, c'est encore un autre sujet. Mais toujours est-il que c'est quand même un plus qu'on apporte. Et bien entendu, on va continuer dans ce domaine, puisqu'aujourd'hui, on est à fond dans le digital et on va aussi progresser dans ce domaine.
Les grandes surfaces spécialisées ont-elles vu la montée d'Amazon ? Ont-elles compris ce qui se passait ou pas, Rodolphe Bonas ?
Alors, à mon sens, c'est vrai qu'il y a lutte, hein, quelque part. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que même si 75% du chiffre d'affaires du jouet en France est encore opéré dans les magasins, n'en reste pas moins que 75% des clients déclarent qu'ils vont sur le digital. Et donc, une des difficultés qu'on a vues, hein, vous savez, c'est cette concentration des ventes. C'est finalement, quand on a un magasin physique, on a cette contrainte d'avoir le jouet à la mode au bon moment et au bon instant. Et ça, c'est un défi de tous les jours, parce que les fameux... Vous savez que ça se compte en week-end dans le jouet, hein, c'est-à-dire on dit, il y a le week-end du 9-10, hein, 9-10 décembre, il y a le week-end du 16-10. En fait, ça se joue c'est au jour au jour. C'est, faut voir
jusqu'à Noël 2017.
Exactement. Donc c'est vrai que avoir une rupture sur, je dis n'importe quoi, la mini poupée Lolol ou la toupie Blade, ça peut être des centaines de milliers d'euros. Alors, qui partent en fumée.
Dites-moi un mot, puis je donne la parole à Bruno Bérard de Playmobil.
Ce que vous dites, c'est vrai, puisqu'on fait des chiffres quand même qui sont énormes au mois de décembre, et que quand il nous manque deux journées, c'est très significatif.
Chiffre énorme, c'est-à-dire c'est le pourcentage à Noël, c'est pour vous, le chiffre d'affaires, c'est quoi ?
70 ? Plus de 40%.
40%,
d'accord. Au décembre.
Juste au mois de décembre.
Et 30 en novembre. Donc on
certains
est à 70%.
Commerçants du jouet ont calculé que les obsèques de Johnny auraient eu un impact sur les ventes, puisque c'était le 9 et 10 décembre.
Début décembre.
Et donc ça aurait eu un impact sur le business.
Et la France entière était devant la télé le samedi.
Voilà,
vous le dites. Alors Bruno Bérard, Playmobil.
Pour revenir sur le chiffre qui était annoncé par Rodolphe, 75% des Français déclarent acheter du jouet sur Internet, mais il y en a 68 ou 69% qui déclarent acheter du jouet en magasin.
Je disais consulte. Pardon, hein,
alors consulte et surtout, environ 70% disent j'ai déjà acheté un jouet sur Internet. Mais c'est à peu près le même chiffre qui dit je vais acheter du jouet en magasin. Or, les achats en magasin représentent 75%. Donc il doit y avoir une raison. Si on se place sous l'angle de l'enfant, quand l'enfant à Noël fait sa liste de souhaits au Père Noël, et en tant que parent, vous avez tous vécu ça, et moi aussi, la liste est plus longue que ce que potentiellement on est prêt à acheter à l'enfant.
Oui.
Du coup, se pose la question de savoir ce que l'on va choisir. Internet ne vous donne pas nécessairement ce service-là, de pouvoir balancer entre différents souhaits de l'enfant. Ce que vous allez pouvoir faire en magasin, parce que vous allez voir les produits, vous allez les toucher, ou si vous allez chez un spécialiste, vous allez avoir un conseil, ou vous allez vous retrouver dans un environnement festif d'achat.
Et Anne-France Marraine.
Oui, je rajoute que le jeu, c'est un produit bien particulier à acheter, parce que c'est vous jouez en famille. C'est un moment de partage en famille.
Ce que vous dites, le jouet, c'est pas une marchandise comme les autres.
C'est pas une marchandise comme les autres. Vous avez bien sûr envie de faire plaisir à vos enfants, mais vous avez aussi une espèce de dimension en disant, mais ce jeu, je vais l'acheter parce que je vais prendre plaisir à jouer avec mes enfants, parce que il a un côté éducatif, parce que je l'ai connu et je trouve que c'est très bien, parce que j'ai joué avec il y a quelques années, etc.
Il y a un côté éducatif, un côté évidemment épanouissement, développement, qu'il ne faut pas laisser de côté. Serge Azoulay.
Toujours, hein, on est toujours là pour faire rayonner l'enfant, pour que l'enfant puisse s'émerveiller autour d'un produit et prendre du plaisir. Et derrière, il y a le rôle des jouets clubs et de tous les autres, c'est l'expérience du consommateur. Il faut que le consommateur, dans le magasin, ait du plaisir et que son expérience soit positive. À partir du moment où il, à partir dans tel ou tel réseau, il n'a plus cette expérience, il va s'habituer à aller ailleurs.
Oui, alors ailleurs. Pardon, Rodolphe.
Oui, simplement pour résumer un peu un point, c'est dans le jouet, il y a trois grandes catégories de typologie d'acteurs en termes d'industriels et de participants. Vous avez les incontournables, hein, les Lego, les Playmobil, les Lancer, etc., les Barbie, qui sont les immuables, en fait.
C'est génération en génération.
C'est ça, c'est ces jouets que vous transmettez, bien vous sûr. Avez envie que vos enfants jouent avec, parce que vous allez jouer avec eux anciens. Et puis, vous avez tous ces jouets qui sont les jouets dits de sous licence, hein, les Star Wars, les Reines des Neiges, etc.
Qui ne valent que pour une saison vaguement.
Exactement. Ouais. Et qui peuvent avoir un impact très significatif, en effet, sur le chiffre d'affaires. Ce que vous évoquiez, hein, c'est, il suffit que on soit sur une année à grosse licence et tout d'un coup, ça peut tirer le marché vers le haut. Et puis, vous avez les
comme
jeux.
Comme cette année, par exemple, quand Star Wars est sorti mi-décembre.
Exactement. Voilà. Et donc, du coup, ça permet de jouer là-dessus. Et puis, la troisième catégorie, c'est un peu les innovations, c'est-à-dire les dernières tendances. Alors, j'ai parlé des mini-poupées, là, lolol, là, et puis, ou alors des toupies Blade Bay qui reviennent. Vous savez, souvent, on recycle, en fait, ces innovations technologiques qui tourne. Et donc, ça vous fait trois piliers, ce qui est expérientiel, mon histoire, ce qui va être ce qu'on a vu au cinéma, et puis enfin, les innovations technologiques. Et c'est là-dessus que le marché du jouet innove en permanence.
Ouais, c'est un marché solide quand même.
Ah oui, très solide, très solide. C'est, les enfants sont là. Hein, il y a à peu près une génération, c'est 800 000 enfants par an. Donc,
c'est quoi la sensibilité du prix dans les achats? Parce que souvent, on achète quand même pour quelqu'un d'autre, enfin en tout cas pour d'autres personnes que nos propres enfants. Quel est l'incidence du prix?
Alors le prix moyen d'un jouet vendu en magasin sur le genre de 16-17 euros. Ce qu'il faut savoir, que la sensibilité est assez forte. Pourquoi? Parce que l'accès finalement aux canaux digitaux, le côté comparaison permanente des prix, vous permet, si vous voulez, de regarder parfois même, pas au centime, en tous les cas à 50 centimes ou à 1 euro près. Après, le panier moyen à Noël, c'est de l'ordre de, aux alentours de 120 euros à peu près.
Voilà. Alors, juste le digital, vous nous parliez tout à l'heure de double peine, donc finalement, qui frappe, par exemple, un acteur comme Toys R Us. C'est Frédéric Simotel, évidemment, notre spécialiste numérique, hein, qui m'expliquait tout à l'heure dans le creux de l'oreille, qui me disait, voilà, Toys R Us, il a surtout raté son virage digital. Pas de migration massive et rapide de son IT vers du cloud et modernisation pour rivaliser finalement avec la vitesse des Amazon. Une stratégie pas toujours en phase avec le marché, c'est-à-dire pas d'analyse du marché de la vente de détail, notamment de la vente de détail de jouets. Manque d'intérêt pour les jouets qui s'appuient sur les écrans. Et puis innovation en berne, manque de retour sur l'expérience client. Ils ont loupé tout ça, Anne-France Maren, Toys R Us, le digital, qui pourtant dans notre paysage maintenant, de façon, comment dire, importante, essentielle, depuis quoi, 10-15 ans?
Je ne sais pas s'ils ont loupé tout ça. En tout cas, ils ont loupé certaines choses. Je pense que il y avait surtout, effectivement, vous le disiez, peut-être pas forcément une très bonne analyse de la distribution spécialisée et de ce qu'il fallait faire. Donc c'était en gros un peu un mix de tout. Je touche à tout. Un grand magasin qui ressemble plus à un Carrefour ou autre chose qu'une distribution spécialisée. Peut-être certainement un manque de conseils parce qu'une démultiplication des références. Puis vous l'avez bien dit, hein, ils sont associés un peu avec le diable. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de gérer eux leur vente en ligne eux-mêmes.
Oui, pas d'innovation drive, de click and collect comme fait Jouet Club notamment avec Alain Bourgeois-Muller, pas de guichet unique pour le client. Puis des habitudes, hein, me disait Frédéric Simotel. Bah, finalement, qui change. Il y a de jeunes consommateurs qui sont davantage tournés maintenant vers les gadgets, les écrans électroniques, les smartphones, les tablettes. Bon, finalement, et Toys R Us n'a pas senti ça. Pardon, alors Rodolphe, un mot, puis il y a Serge Azoulay qui me fait signe.
Juste un point quand même pour éclairer. Ça, c'est un point qui est très spécifique du jouet. C'est-à-dire, véritablement, le marché est dissocié entre, je veux dire, les jouets, on va dire, non digitalisés, c'est-à-dire en dehors des tablettes ou bien des PlayStation, des consoles, etc., et le reste du jouet. Et on sait vrai que sur ce marché qui est fortement en croissance, hein, qui est le marché des jeux vidéo, d'accord, vous avez des acteurs qui sont en parallèle du marché du jouet, hein, c'est-à-dire les Fnac, les Conforama, etc., qui eux existent et donc qui viennent drainer quand même un marché qui, lui, sur le marché des jeux vidéo est en croissance de plus de 20%. Donc c'est vrai que quand on est un acteur comme Toys R Us et qu'on a une population qui, pour 85%, vous savez, des moins de 14 ans, ils jouent aux jeux vidéo, 85% des moins de 14 ans jouent aux jeux vidéo à peu près une heure et demie par jour, c'est dommage de passer à côté de ce marché-là.
Oui, alors Serge Azoulay, PDG de Lancet.
Ce que l'on ne voit pas pour Toys R Us, par rapport à tout ce que vous décriviez, les virages qu'ils n'ont pas pris, c'est peut-être des choses qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'ils ont une dette qui est complètement démesurée. Quand on a une dette qui est démesurée, on ne peut pas raisonner.
Manque de capacité d'investissement à cause d'un LBO, justement,
qui est complètement... LBO qui les a surchargés, qui les fait suffoquer un petit peu.
Oui. 5 milliards de dollars de dette, hein, quand même. Il faut quand même le presser.
Ah, vous voyez, Bruno Bérard, Playmobil.
Et peut-être en nuançant le point de vue entre Toys R Us aux États-Unis et Toys R Us en Europe, et en particulier en France et en Allemagne, parce que ce sont deux pays dans lesquels les performances de Toys R Us sur le marché sont tout à fait correct.
Et qui se justifie par quoi, justement? Pourquoi ça va mieux à un endroit qu'à un autre?
Écoutez, sur mon expérience, moi j'ai vu à partir de 2000, Toys R Us s'adapter en France et prendre le leadership sur un certain nombre d'évolutions merchandising qui n'avaient pas lieu aux États-Unis, qui n'avaient même pas lieu en Allemagne. Et Toys R Us est devenu, pour l'enseigne mondiale Toys R Us en France, un point de référence.
Il y a des grands Playmobil dans les Toys R Us français, hein, ils sont immenses. J'en ai visité.
Bon, on se retrouve dans un instant. Comment regagner la partie? Est-ce que Amazon peut gagner justement le jeu? Justement, on verra ce qui nous fera choisir peut-être plus Amazon que Jouet Club ou autre. Il y a d'autres grandes surfaces, King Jouet également, qui essaient d'innover aussi sur le digital. On vient vite avec nos experts, nos joueurs. À tout de suite sur BFM Business, les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors la grande récré et Toys R Us en difficulté, puis aussi une grande enseigne au Royaume-Uni, Maplin, donc spécialisée plus dans l'électronique. Hein. Bon, il y a le digital bien sûr, il y a la concurrence, vive concurrence, hein. La grande distribution, Amazon, et puis donc les enseignes spécialisées, qu'elles soient petites, moyenne ou très grosse, hein, notamment les Toys R Us, notamment. Comment regagner la partie, justement? Tiens, Alain Bourgeois-Muller, PDG de Jouet Club, pourquoi j'irais davantage chez Jouet Club que chez Amazon pour le prochain Noël? Allez-y, convainquez-moi.
Il y a différentes raisons, je vais essayer de vous convaincre.
Ouais.
La première des raisons, c'est que d'abord vous aurez du conseil, chose que vous n'avez pas chez Amazon. La deuxième des raisons, c'est un panel de choix et de produits que vous pouvez toucher. Je pense qu'aujourd'hui, l'affinité de l'enfant et des parents, parce que les parents, ils viennent dans le magasin, ils ont une liste, et cette liste, ils savent même pas à quoi ça se... Quel est le produit qui correspond à ce que la demande de l'enfant. C'est un métier assez compliqué, surtout, comme on le disait tout à l'heure, les listes peuvent être très conséquentes, donc
les
parents
plus longues.
Sont un peu obligés de faire les choix. Parce que, malheureusement pour nous, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc tout ça, c'est des choses, et aussi, je veux dire, l'attractivité et le partenariat qu'on peut avoir aussi avec les fabricants, ça c'est aussi quelque chose d'important, parce que nous, je vous le rappelle, on vend du jouet du 1er janvier au 31 décembre, et on ne vend que du 100% de jouets chez nous, chez Jouet Club. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très spécifiques, mais qui sont extrêmement importants, et on fait bien entendu aussi de la formation du personnel, parce qu'il est important que les gens, quand vous leur posez une question, ils sachent répondre à le bon élément au client, ce qui n'est pas forcément le cas, et c'est aussi quelque chose qu'ils n'auront pas sur Internet.
C'est ça, Rodolphe Bonas, pour faire revenir les clients dans les magasins, il faut leur proposer finalement d'avoir affaire à des experts, comme quand on va acheter par exemple un PC à la Fnac, c'est ça?
Alors, des experts et en même temps aussi de l'expérience, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le magasin. Alors, monsieur est un peu modeste, mais ils ont inventé un concept chez Jouet Club qui est le village des jouets. Et moi, je suis assez fan, j'y suis allé aujourd'hui, sachant que je venais à votre émission ce soir, Fabrice.
Et on a un métier vachement compliqué.
J'ai un métier vachement dur, oui. Je vous remercie. Et c'est vrai que...
Donc demain, si je fais une émission sur le cinéma, vous passez...
Malheureusement, je serai obligé d'aller passer ma journée
au cinéma. C'est tout ça, Rodolphe Bonas.
Et donc, en fait, c'est vrai que ce concept de village des jouets qui sont organisés par sorte de maison, par thème, dans lesquels vous allez d'un univers à un autre, finalement, ça transporte à la fois les les enfants, mais ça transporte aussi les parents. Et c'est vrai que c'est assez bien vu parce que on peut y rester beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire on est moins dans la mise en œuvre d'une offre en disant tiens, je veux prendre quelque chose, ça y est, je m'en vais. Là, au village des jouets, vous découvrez les jouets en plein air, vous découvrez les jouets du modélisme. Et donc du coup, parfois, vous avez des adultes qui viennent au village des jouets acheter des jouets d'adultes au village des jouets. Et ça, c'est assez bien vu côté Jouet Club. Et c'est je pense que le type d'expérience qui vont permettre de redorer le blason, mais en tous les cas de donner une alternative au digital.
Alain Bourgeois-Muller.
Oui, et en plus, je peux encore confirmer les choses, puisque cette année, nous allons aussi évoluer. C'est-à-dire qu'on va amener plus de conseils, bien évidemment, mais on va aussi animer des tables d'attractivité pour pouvoir jouer avec les produits directement.
Comment les fournisseurs, les fabricants, les enseignes, justement, doivent travailler ensemble, justement, pour faire revenir dans les magasins Bruno Bérard, Playmobil?
On a un rôle extrêmement important, en particulier vis-à-vis du circuit des spécialistes. C'est, on doit contribuer, apporter notre contribution à réenchanter ou à enchanter ou à continuer d'enchanter les magasins. C'est-à-dire qu'une marque comme Playmobil se doit d'offrir à un magasin un certain nombre de services, d'installations, de décorations, de produits, de PLV, de vitrines qui vont permettre aux consommateurs de se projeter.
Plonger dans l'univers tout de suite.
Alors, c'est pas désintéressé, évidemment, puisque forcément, on est nous-mêmes en concurrence avec un certain nombre d'autres industriels, et le fait d'être pertinent sur ce domaine-là, qui est l'enchantement du magasin, nous permet aussi de gagner des parts de marché avec nos concurrents.
Serge Azoulay, Lancet.
Le mot magique, c'est enchantement.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit complètement émerveillé, se retrouve dans un univers qu'il a envie de consommer, que les parents participent à cette expérience. Et le consommateur choisira l'endroit où il vivra cette expérience. L'important, c'est la satisfaction du consommateur.
Et ça, cette notion d'enchantement, finalement, elle est beaucoup plus présente dans les magasins que lorsqu'on va acheter, par exemple, un livre, un PC sur Amazon, sur du commerce, sur Rodolphe.
En fait, si vous voulez, dans l'univers du jouet, il y a une logique qui s'opère énormément dans le côté imaginaire, en fait, de la chose. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un PC ou un téléphone, etc., vous êtes plus dans un achat qui est plus, on va dire, un peu plus technique. D'accord? On a bien vu qu'une partie même du business, on va dire un peu de loisirs comme tout le business de la musique a basculé sur le digital. Sur jouer, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, vous avez cette notion dans laquelle vous transmettez quelque chose d'éducatif à vos enfants qui va vous élever. Vous avez une sorte de fierté d'offrir un jouet. Et donc, c'est ça qui est encore assez puissant dans ce marché-là.
Donc, les magasins ont encore des beaux jours.
Et surtout, c'est un marché d'innovation, comme vous le disiez, c'est-à-dire un produit sur deux chaque année n'était pas là l'année dernière.
Juste ce que disait Bruno Bérard.
Ça, c'est vrai que c'est important.
Alors Bruno Bérard, juste après, Anne-France Marraine de Kid Expo. Allez-y Bruno Bérard.
Côté industriel, notre perception, c'est que le seul circuit qui crée durablement la demande sur une marque, au-delà de ce que nous pouvons nous-mêmes faire sur un plan marketing, c'est le circuit des spécialistes. Les hypermarchés sont plutôt un circuit qui va venir cannibaliser une demande qui aura été créée par les spécialistes. Il en est de même pour Internet, qui apporte bien d'autres services, mais un pur player Internet comme Amazon ne crée pas la demande sur une marque comme Playmobil. Donc, le seul circuit qui va la créer dans la durée, c'est les spécialistes. À cause de l'exposition.
Mais vous vendez quand même sur Amazon, vous.
Pardon?
Vous vendez quand même sur Amazon.
Absolument, bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est pas non plus un endroit à ne pas fréquenter.
Non, c'est comme je disais, c'est pas à nous de choisir le consommateur.
Au contraire, oui.
Alors, aux États-Unis, simplement pour vous donner le chiffre, c'est à peu près 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le jouet pour Amazon et 900 millions d'euros sur Toys R Us. Donc, c'est pour vous expliquer à peu près les rapports.
Le double,
ouais. Sachant que, il y a 15 ans, Amazon était quasi inexistant sur le business.
Alors, Anne-France Marraine.
Oui, vous savez, nous, à Kid Expo, on a une devise qui dit que plus le monde devient virtuel, plus la rencontre est essentielle. Et je reviens sur cette notion d'expérience. Ces enfants qui sont extrêmement prescripteurs auprès des parents, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de vivre une expérience. Vous pouvez pas les sensibiliser à un flyer, à une brochure, même si les catalogues de Noël font rêver, bien sûr. Mais ils ont besoin de vivre cette expérience et d'expérimenter. Et voilà.
On parlait de Noël qui représente 40% de votre chiffre d'affaires, juste le mois de décembre. Comment est-ce qu'on essaie, comment est-ce qu'on peut animer le marché du jeu et des jouets tout au long de l'année, justement
Il y a des sorties qui arrivent régulièrement, sorties de consoles, sorties de jouets. Bruno Bérard.
Alors d'abord par des sorties de nouveautés. Hein, c'était, je dirais, la grande dynamique de ce marché, c'est le lancement des nouveautés, encore une fois.
Y compris en plein milieu du mois d'avril ou du mois de... Ouais, non, bah Rodolphe, non, c'est bien ce qui
pas
me semblait.
Trop.
Pas trop, trop, bah non, évidemment.
Sur des gros événements, oui.
C'est quand même relativement rare. Hein. C'est-à-dire que quand on voit le tunnel des lancements qui démarre à peu près, Fabrice, à peu près en octobre, vacances de la Toussaint.
Ça paraît tellement logique.
En gros, c'est ça. C'est logique, puisque la captation du business est là. Hein. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on va le dépenser. Mais ça peut arriver, il peut y avoir quelques lancements.
Vous avez deux grandes périodes de lancement dans le jouet. La première période, c'est début janvier, c'est-à-dire où se réinstallent les assortiments de la nouvelle année. Et la deuxième période, c'est septembre-octobre, juste avant la lancée de la fin d'année.
Et puis vous avez des phénomènes de cours de récré. Vous avez des jeux qui, tout à coup, font le buzz dans les cours de récré,
qui partent. Comment ça s'appelle les wheels, ça, les roues, là, l'an dernier aussi.
Les hand spinners, dernières, les toupies cette
Blade
année.
Qui reviennent redesignées différemment.
Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez, qu'on ne maîtrise pas forcément, mais tout d'un coup, il y a un engouement, ça fait du buzz dans les cours de récré, et vous avez vos enfants qui reviennent en disant, moi, je veux le même jeu et jouet parce que mon ami là, et que c'est à ça qu'on joue dans la cour de récré.
Et là, merci au digital. Parce que tout ça, évidemment, les jeunes étant en permanence sur leur téléphone ou leurs écrans, suscitent et entretiennent quelque part.
Alors, le digital accompagne, mais pas que. Hein. Vous avez quand même des jouets physiques dans les cours de récré. Et si vous ne l'avez pas, ben...
Non, mais je sais, mais pour entretenir la réputation,
c'est ça que
je
veux dire. Oui, voilà. Évidemment.
Là, typiquement, il y a la mode des pâtes. Vous savez, il y a la pâte slim. Hein, une espèce
ah oui,
de
je veux bien ça.
Fabrique,
oui, bien
là.
Sûr.
Voilà, donc là, c'est complètement
verte.
À la mode. Il n'y a plus un enfant qui ne fabrique pas ça à la maison. Hein.
Oui, bon.
Attention à vos mousses à raser, Fabrice. C'est avec ça qu'on le fabrique.
Oui. Bon, en tout cas, il y a les magasins physiques, mais la survie quand même pour ces entreprises, ces enseignes spécialisées, c'est quand même de faire de l'omnicanal quand même, Rodolphe Bonnaz. Bien entendu, je citais King Jouet, pardonnez-moi, Alain Bourgeois-Muller, l'un de vos concurrents. On a vu des bornes Lego, Mattel, Playmobil aussi qui sont testées pour acheter les produits, qu'on va pouvoir se faire livrer à domicile, en magasin, et puis accéder à toutes sortes de vidéos, de démos.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que la complémentarité des deux canaux est absolument incontournable, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que la consultation avant achat, les Français déclarent que 70% des Français avant d'acheter un jouet le consultent sur le digital. À la fois pour voir finalement son prix, sa disponibilité, mais surtout pour voir un certain nombre d'avis aussi, hein, parce que les avis sont des éléments constitutifs de l'achat aujourd'hui sur le digital. Et en parallèle de ça, en effet, il n'en reste pas moins que 3/4 des ventes sont opérées en magasin. Ce qui veut dire quand même, Fabrice, que l'alchimie des deux est le seul moyen de faire du 1+1=3 sur ce marché. Pourquoi ? Parce qu'il va bien falloir qu'on arrive à concilier au sein même d'une même expérience le digital et le physique. Attention, Amazon ne s'y trompe pas non plus, puisqu'Amazon est un grand fabricant de magasins physiques maintenant. Vous savez qu'il rachète des magasins physiques, etc. Donc dans le jouet, peut-être qu'un jour ils créeront des magasins.
Alain Bourgeois-Muller, vous jouez club, vous vendez sur la marketplace d'Amazon ou pas ?
Ah non.
Ah bah non, mais attendez, ne répondez pas à ça comme si je vous avais...
Vous voyez, Toys R Us l'a fait il y a 15 ans.
Mal lu à nos prix.
Oui.
Non, mais nous allons faire, effectivement, c'est exactement... C'est le résumé de ce que nous allons faire en 2018, c'est-à-dire qu'on aura les deux. La possibilité, nous, le deal, c'est que le client soit satisfait à 100%, c'est-à-dire qu'il rentre dans notre magasin. Si on n'a pas le produit en magasin, on se débrouille, et sous 24 ou 48 heures, il peut l'avoir chez lui à domicile.
Bruno Bérard, Playmobil, il faut mettre de la tech partout aussi ?
Non, pas nécessairement. Il ne faut jamais oublier que l'enfant, il aime aussi s'amuser avec des petits personnages qui font 7,5 cm et dans lesquels il va venir projeter ses émotions. Donc il n'a pas forcément besoin de lumière qui clignote et de bruit pour s'amuser.
Serge Azoulay ?
De toute façon, on se réinvente chaque année. Hein. Quand on renouvelle 50% de son assortiment, on est obligé de se reposer la question. On a une présentation de nos collections au mois de novembre de l'année précédente.
Donc un an et un mois avant.
Donc on ne sait même pas encore ce qui va se vendre à Noël ou ce qui va bien se vendre ou pas. Qu'on présente déjà d'autres nouveautés pour Noël de l'année suivante. Donc on est en phase de risque quasi permanente. Et voilà, on apprend à jouer avec et on apprend à se rapprocher en tout cas de plus en plus du consommateur, de faire tester les enfants de plus en plus, puisque c'est eux qui décident de toute façon.
Il y a une fatalité Amazon ou pas, Rodolphe Bonnaz? Regardons par exemple comment Sephora résiste, et c'était les Échos qui l'expliquaient très bien ce matin. Givenchy, Dior, qui ne sont accessibles qu'à travers Prime, son service de livraison illimité.
Seul un quart des marques distribuées chez Sephora étaient en vente sur Amazon en septembre 17, selon Gartner. Finalement, on peut faire sans ?
Alors, on peut faire sans, ça va être de plus en plus compliqué, ouais. Mais on peut faire sans. En revanche, vous voyez bien que dans les exemples que l'on donne, on a des logiques expérientielles et des logiques d'exclusivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, véritablement, cultiver l'offre, c'est quand même le meilleur moyen de résister au digital. C'est-à-dire proposer une expérience différente et surtout des produits qui soient différenciants. On voit bien que c'est la meilleure offre.
Donc, il va gagner la partie Amazon ? Peut-il gagner la partie dans le monde des jouets ou pas ?
Amazon,
là, pour l'instant, on le rappelle, 25% de part de marché, 75% dans les magasins durs.
Amazon, c'est une alternative à l'achat du jouet, mais c'est pas le seul moyen.
Alain Bourgeois-Muller, mot de la fin.
Amazon. La féerie du jouet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le rêve.
Elle ne se fait pas sur Internet, quand même ?
Pardon ?
Elle ne se fait pas sur Internet, c'est ce que vous dites ?
Oui.
Ah bon, d'accord. Bruno Bérard.
L'enfant ne se préoccupe pas de savoir où ses parents vont acheter le jouet.
Oui, je suis d'accord. Je pense que lui, ce qu'il veut, c'est vivre un moment, c'est ce qu'on a dit, c'est se réenchanter, c'est vivre un moment magique avec ses jeux.
Même si Fabrice, parfois, ce sont les enfants qui expliquent aux parents comment acheter leurs jouets sur Internet.
Oui, peut-être, oui, en effet.
En tout cas, le consommateur décidera. L'important, c'est qu'il ait son expérience et sa satisfaction.
C'est dit, c'est fait, voilà, et commençons à penser, enfin en tout cas vous, y commencez à y penser, les fêtes de Noël, même si on est donc fin mars, c'est dès maintenant qu'il faut penser donc à cette stratégie. Oui, Rodolphe ?
Mais c'est vrai que le marché du jouet est un marché de joueurs, parce que ces messieurs misent tous les ans sur les innovations à venir, et ça c'est un vrai pari qu'ils font, il faut les féliciter.
Et on ne sait pas ce qu'il va y avoir encore, quels
exactement.
Sont les objets vedettes
tous les jours.
De Noël 2018 ?
2018, on s'en doute bien, on prépare 2019.
Ah, mais, qu'est-ce que ça va être en 2018 ?
Ça va être il y a plein de choses, il y a de l'électronique, du jeu laser, du Toy Story, plein de bonnes choses.
Allez, un mot et puis on se dit au revoir.
Une quinzaine de nouveaux thèmes chez Playmobil.
Voilà. Bon, c'est tout, on n'en saura pas plus. Voilà, donc secret.
Vous voulez essayer de lancer les produits, mais c'est raté, Fabrice.
Merci à tous, je vous souhaite pas joyeux Noël. Alain Bourgeois-Muller, PDG de Jouet Club. Rodolphe Bonnaz, donc avec Karine Vergnol tous les week-ends sur BFM Business. Innover pour le commerce, c'est le patron de CACOM. Bruno Bérard, DG de Playmobil en France. Anne-France Marraine, commissaire général de Kid Expo, et Serge Azoulay, le PDG de Lancet, les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.